Chapitre 5. Le saut dans le noir. À un petit billet perdu, Galimard répondit immédiatement que son apprenti avait appris le métier en 5 semaines et qu'à elle deux, elle suffisait à la clientèle. Plus tard, peut-être, quand j'aurai mon institut de beauté. Monsieur Black mord tout doucement à mon hameçon. En attendant, cher le maire, soignez bien vos cheveux et, si vous voulez d'un shampoing à l'œil, je vous attends. Cela, c'était le dernier coup. De quel côté se tourner maintenant? Ah, folle, folle qu'elle avait été d'écouter la flûte de l'enchanteur. Faudrait-il se résoudre à retourner chez Miss Keddy, chez Miss Riscrack ou chez ces gens pieux et solennels de Queensgate? La croirait-on seulement? Thérèse commençait à comprendre qu'une adresse dans le Strand n'était pas ce qu'on appelle une bonne adresse. La concierge avait charitablement renseigné sa jeune et ignorante locataire sur les inconvénients qu'il y avait pour une demoiselle sérieuse à s'asseoir seule le soir sur son balcon qu'éclairaient les maisons d'en face. Thérèse jetait maintenant des regards d'abomination sur ce balconnet dont elle avait été ravie le premier jour. Ah mon Dieu, quand on s'est fourvoyé à ce point, comment retrouver la bonne route ? Mettre une annonce, c'était donner forcément une adresse suspecte qui écarterait tout de suite d'honnêtes offres. Déménager, oui, mais où aller? Il ne restait que Pierre Combe pour un conseil. Elle l'avait vu plein de regrets, de sollicitude pour elle, même de bonté délicate. Il lui avait promis sur un banc de Regent's Park qu'elle aurait de jolis moments. Ne les lui avait-il pas donnés? Et n'avait-il pas dit « Je suis amoureux de vous » Même en anglais, ce n'est pas si bien que « je vous aime ». Il n'avait peut-être pas osé le dire. Thérèse était restée épineuse, froide et sur la défensive contre toute approche sentimentale. Elle-même, que pensait-elle tout au fond de Pierre Combe? Elle l'aimait bien, oui. Sa compagnie lui plaisait, sa conversation la charmait souvent. Il ne lui inspirait pas une pleine confiance et pourtant, la seule idée de le perdre lui faisait un peu mal. S'éloigner de lui, n'avoir plus personne. Elle regardait autour d'elle, dans ce désert de Londres, elle n'y voyait que son faune, déconcertant et fidèle. Est-ce que par hasard, se demanda-t-elle subitement, aimer serait cela, cette peur de perdre un être unique en qui tout se résume? Je devrais le savoir, moi qui ai eu mes 21 ans il y a 15 jours. Mais alors, si j'aime Pierre Combe et qu'il m'aime, il me semble que... Cela rend ma situation encore plus difficile. Thérèse rouvrait la lettre de Galimard quand Pierre Combe arriva pour prendre sa leçon. « Qu'y a-t-il? Vous avez une mine renversée. Encore des larmes, toujours des larmes » fit-il en fronçant le sourcil. Quelques mots le mirent au courant. La dernière planche de salut était hors de portée. Alors Thérèse lui vit tout à coup un air réfléchi, sérieux, anxieux, qu'elle ne lui connaissait pas encore. Il hochait la tête, il regardait le tapis, se prenait le menton. Il dit enfin, avec hésitation et lenteur, « Ma pauvre Thérèse !» Puis il se leva et s'approcha d'elle. « Je suis un grand sot. Il y a des semaines que j'aurais dû vous dire, voulez-vous m'épouser ? Pourquoi pas, dites !» Stupéfaite, Thérèse le regardait avec de grands yeux fixes et cherchait des mots qui ne venaient pas. « Asseyons-nous là bien gentiment, » dit-il, la prenant par la main pour la conduire en cérémonie au petit sofa et tirant ensuite un fauteuil en face d'elle. « Ne dites rien pour le moment, ni oui ni non, c'est moi qui ai la parole. Pourquoi ne nous marierions-nous pas? C'est la seule solution possible, il me semble. Je ne pense qu'à vous, tout le jour et la moitié de la nuit. « Vous m'avez ensorcelée, méchante. Je ne fais rien qui vaille. Avec vous, pour vous, je travaillerai comme plusieurs nègres. Non, non, ne parlez pas encore. Vous alliez demander comment nous vivrions, mais très agréablement dans mon lodging de 2 pièces qui sont beaucoup plus grandes et confortables que celles-ci. Ah, Thérèse, comme je vous gâterai, comme nous serions un heureux ménage. Vous n'auriez plus de soucis, et moi ? Non, je ne peux pas dire. » Il cessa de parler. Une émotion passa sur son visage, qui changea étrangement, qui parut plus jeune, avec des yeux d'enfant émerveillé. Pierre Koum se leva, resta un instant près de la fenêtre, puis revint à Thérèse et se pencha sur elle. « Est-ce oui ? » murmura-t-il. « Je devrais réfléchir, » fit-elle aussi à voix basse. « À quoi bon réfléchir ? Vous savez parfaitement, en cette minute, si ce sera oui ou non. Réfléchir ne servira qu'à vous embrouiller et à me tenir sur des charbons. Ah, vous savez, je n'ai pas beaucoup de patience. » « Je le sais, » dit Thérèse, se souvenant de l'incident singulier où il avait secoué par les deux bras. « Mais c'est à peine si nous nous connaissons. » Il poussa une exclamation étouffée, une sorte de ouf d'exaspération. Il fit deux pas vers la porte. Thérèse crut qu'il allait sortir et disparaître de sa vie pour toujours. Le seul ami, le seul appui, le seul conseil l'abandonnait. Elle s'affola, elle cria d'un ton de détresse « « Ne partez pas !» Il revint, s'arrêta au milieu du salon. « Si vous me refusez, il faut bien que je m'en aille, je suppose, » fit-il assez rudement. « Oh, ne me parlez pas ainsi, ne me brusquez pas !» protesta Thérèse. « Vous devriez comprendre que je suis bouleversée. J'ai besoin de me ressaisir. Vous ne m'avez pas donné 5 minutes. Il faudra que j'écrive chez moi. »
« Tant que vous voudrez. » Je vais toujours acheter la licence. Vous avez été domicilié ici le temps nécessaire. Je crois bien que nous pouvons être mariés dans 8 jours, même plus vite. Je m'informerai d'un registrar.
Un registrar, est-ce l'état civil ? Demanda-t-elle.
À peu près.
Thérèse se souvenait tout à coup d'une conversation entre Mademoiselle Galimard et M. Black sur les avantages et inconvénients du mariage par licence. Mademoiselle Galimard, si avisée, avait admis les avantages. Une de ses amies s'était mariée ainsi. Tout à coup, Thérèse s'aperçut qu'elle s'informait des voies et moyens avant d'avoir dit oui.
« Je n'ai pas dit oui, » fit-elle avec une dernière hésitation.
Alors, il lui sembla qu'un cyclone s'abattait sur elle et l'emportait en tournoyant dans l'étroit espace. Pierre Koum l'avait prise dans ses bras avec un cri de triomphe presque sauvage. Il la serrait contre lui, il tournait en dansant et il donnait des coups de pied aux petites chaises qui gênaient ses évolutions. En même temps, il chantait son nom « Thérèse, ma Thérèse !» sur un rythme de valse toujours plus rapide qu'il essouffla pour finir. Il tomba sur un fauteuil avec la jeune fille qui se dégagea vivement bien que la tête lui tournât.
« Vous êtes absolument fou !» protesta-t-elle dès qu'elle eut retrouvé son souffle.
« Absolument !» répondit-il avec sérénité.
« Je n'ai pas dit oui » fit-elle.
« Vous n'avez pas dit oui ? » s'écria Pierre Koum.
« Non, je n'ai pas dit oui. J'ai dit « je ne dis pas oui ».
Mais moi, j'ai entendu « oui ».
Avez-vous dit non ?»«
Non, je n'ai pas dit non. » Ce dialogue parut si sot et si incohérent à Thérèse qu'elle se mit à rire bien malgré elle et elle agita les mains comme pour écarter des fils d'araignée qui se tissaient autour de sa personne.
« Ah bien !» dit Pierre Koum rasséréné. « Ne pas dire non, c'est dire oui, uniquement pour prolonger l'agonie. Est-ce oui, enfin, Thérèse ? Puis-je acheter la licence ?»«
Mais non, c'est très cher, je le sais !» objecta-t-elle pour gagner un peu de temps et filer par la tangente.
« C'est trop cher pour vous !»
D'abord, fit-il avec un grand rire heureux qui donna des remords à Thérèse, « Écoutez bien, jeune personne aux instincts prosaïques et avaricieux. Je ne vais pas acheter la licence de l'archevêque, celle qui coûte le plus cher. Il y en a dans les prix doux. Ensuite, je viens de toucher ma pension, je suis cousu d'or. J'ai plus cassé pour la licence, l'anneau, la lune de miel, etc. Dès cette minute, ma belle Thérèse à moi, balayez de votre esprit toutes ces sordides idées d'argent. Je suis là pour tout, comme j'ai déjà eu le privilège de vous le dire. Et défaites-moi vite cet air froncé qui vous va très mal. Je vais vous laisser. Voyez, si je suis discret, je ne vous demande même pas un baiser jusqu'à ce que vous soyez un peu apprivoisé. » Quand Thérèse fut seule, il lui sembla qu'elle sortait d'une hallucination. Pourquoi n'avait-elle pu dire non carrément ?
Est-ce que jamais une demande en mariage avait été faite et reçue d'une façon aussi baroque ? Comme toutes les jeunes filles, Thérèse s'était jouée à elle-même, plus d'une fois, dans son imagination, la délicieuse scénette de la demande en mariage. L'attente avec ses palpitations, puis la voix persuasive, le mutuel aveu. Aujourd'hui, tout avait été brusquerie d'une part, recul et stupidité d'autre part. « Oui, je n'ai pas dit non. Non, je n'ai pas dit oui. » Elle rougissait maintenant de n'avoir trouvé que des phrases idiotes, elle, Thérèse Lemaire, qui se croyait pétrie de lucide et froide sagesse. Elle se sentait encore emportée par la trombe dansante qui renversait les chaises, elle revoyait le visage illuminé de Pierre Coum, elle entendait le grand rire du faune qui emporte sa nymphe à travers les halliers. « Il était transporté de joie, pensait-elle. Je n'aurais jamais cru qu'un Anglais... » Mais on assure, du moins Galimard le disait, qu'un Anglais peut être aussi fou que notre homme en certaines occasions. Thérèse s'arrêta devant le grand miroir qui surmontait la cheminée et elle se considéra un bon moment. « Ai-je l'air très contente, radieuse ? Je devrais être radieuse. Une toute fraîche fiancée. Fiancée, nous ne le serons pas longtemps, c'est dommage. J'aime Pierre Coum. Mais oui, je l'aime. Pas encore passionnément, cela viendra. Je ne suis pas assez sentimentale. Le vrai, c'est que je me réfugie en lui comme en un ami protecteur parce que je ne vois pas d'autre issue. » L'effort de sincérité déchirait le voile. Ah, cela, c'était affreux. Se marier par calcul, pour l'utilité, comme Galimard. Non, non, pas uniquement ainsi, mais par penchant, par sympathie, par gratitude, par amitié. D'ailleurs, très probablement, la synthèse de tous ces sentiments, c'était de l'amour, que sait-on? Que pouvait-elle en savoir? Elle avait entendu dire que dans tout mariage, l'un des époux est plus épris que l'autre. Leur mariage suivrait donc la règle inévitable et universelle.